Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cœur de patrimoine. Comme chaque semaine, on se retrouve, vous en avez l'habitude, pour explorer ce monde de la gestion de patrimoine, des conseils, des commentaires, des découvertes aussi, de tout ce qui permet de faire fructifier vos placements pour vous, les épargnants, mais aussi des découvertes peut-être pour les professionnels qui vous accompagnent. Alors au sommaire de ce 39e numéro, on va parler IA. Il y a quelques semaines, je vous faisais découvrir Figen AI, une IA destinée à la gestion de patrimoine. Et bien aujourd'hui, c'est la gestion de patrimoine qui se penche sur l'intelligence artificielle. Et puis, vous saurez donc tout dans un instant grâce aux experts de la CNCGP. Ensuite, on parlera retraite, pas pour plancher sur une nouvelle énième réforme, mais pour vous accompagner à l'étranger. Et puis, on terminera par un détour par les marchés financiers. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et comme promis, on va donc s'intéresser à l'intelligence artificielle. On reçoit deux experts, membres de la CNCGP, qui président à la commission de l'IA à la CNCGP. Sandrine Genet, bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et Vincent Courroyer, bonjour Vincent.
Bonjour Cédric.
Merci à tous les deux d'être là. Édition d'un guide, c'est devenu une spécialité de la CNCGP. On avait reçu Pascal Bossan ici même pour parler un petit peu de tout ce qui était ESG, développement durable, etc. Et là, maintenant, on va parler d'IA. Alors, déjà, peut-être plantons le décor. Sandrine, pourquoi ce guide, entre guillemets, quel est l'objectif de ces quelques pages à destination, on le rappelle, de vos petits camarades, des adhérents de la CNCGP qui vont tout savoir grâce à ce petit guide?
Bah peut-être justement, finalement, un guide, on le pose sur son bureau et ça permet de l'avoir en tête et d'y penser plus régulièrement. Notre idée au sein de la CNCGP, c'était de donner envie, je pense, tout d'abord au CGP de se pencher sur ce sujet, de se l'approprier. Et donc, on a essayé de faire un guide relativement pratique avec des conseils. Le maître mot en IA, un des maîtres mots, c'est le prompt, c'est-à-dire la façon dont on va déléguer à l'IA une tâche comme on pourrait finalement au quotidien la déléguer à une personne de son équipe. Comment est-ce qu'on pose les bonnes questions? Comment est-ce qu'on donne les bonnes directives? Donc il y a une volonté, un, de donner envie, de dire c'est pour tout le monde, c'est accessible à tous. La deuxième chose, c'est de donner des bonnes pratiques, de donner des idées de comment améliorer la qualité de la restitution qu'on obtiendra de l'outil. Et puis également quand même de fixer un cadre pour amener quelques points de vigilance sur lesquels on pense qu'il est important que les CGP soient informés pour pouvoir travailler en sécurité aussi sur tous ces sujets.
Bon, alors, c'est pas casse-pied, hein. C'est hyper didactique, c'est illustré, etc. Donc, c'est pas une somme de leçons. Comment est-ce qu'il peut aider, finalement, Vincent, les conseillers à intégrer l'IA, parce que j'imagine que tout le monde s'est amusé depuis quelques années à aller titiller ChatGPT ou autre pour lui demander quelques considérations sur votre métier.
Alors justement, on l'a voulu sous forme de guide pour qu'il soit présent à chaque instant, qu'il puisse le consulter quand ils en ont besoin. Et on a voulu expliquer, ou en tout cas donner quelques pistes de réflexion autour de l'IA, c'est quoi? En général, c'est quoi? Parce que c'est qu'il y a plusieurs formes d'IA. Et à chaque fois qu'on va utiliser l'IA dans le quotidien, bah effectivement, ça va nous aider dans le quotidien, ça va nous aider à aller plus vite. Et puis, il peut y avoir des IA plus professionnelles, soit pour nous aider dans notre métier en tant que chef d'entreprise, en tant que CGP, nous sommes des chefs d'entreprise, voire nous aider dans notre quotidien en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour apporter toujours un meilleur conseil, plus adapté, plus approprié auprès de nos clients.
Alors justement, vous le dites, pour tout à chacun, souvent c'est ChatGPT ou maintenant il y en a quelques-uns qui émergent aussi, mais dans le monde professionnel, les IA, elles sont multiples.
Alors j'ai envie de dire qu'on est un petit peu comme Monsieur Jourdain, on utilise l'IA sans le savoir. Puisqu'aujourd'hui, les IA sont dans nos outils sans qu'on s'en rende compte, puisque c'est une évolution, c'est un outil technique qui a été déjà implanté par petites touches, voire par touches plus importantes. Vous en parliez tout à l'heure d'une nouvelle IA qui rentre et qu'on l'utilise au quotidien déjà sans le savoir. Mais c'est important.
Mais il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres dans votre monde à vous?
Alors, l'IA, en fait, elle est diverse. L'intelligence artificielle va dépendre de quel est l'objectif que l'on a. Si on veut s'interroger sur ou je pars en vacances l'année prochaine, eh ben, très bien, l'IA va vous proposer votre tour à Ibiza. Si vous voulez que l'IA vous interroge sur donnez-moi une synthèse de la loi de finances 2025, l'IA va vous faire une très belle synthèse qui va vous aider à la comprendre. Et après, il y a des IA plus complexes, qui vont se baser sur notre métier, sur l'expérience de notre métier, et qui vont nous aider dans une préconisation patrimoniale, une recherche de jurisprudence dans telle et telle action. Il faut savoir que l'IA se base sur l'expérience. Oui. On dit toujours une IA est entraînée, elle est entraînée par des situations, des environnements, des cas. Et c'est ça, en fonction de qu'on va l'utiliser, qu'on va pouvoir savoir laquelle utiliser.
Votre métier, il est quand même très particulier, hyper spécialisé. Il a besoin d'une précision hors norme sur une foule de textes, de jurisprudence, voilà, on va pas faire le panégyrique de la gestion de patrimoine, mais j'imagine que c'est autant de défis pour une IA et pour les pros vis-à-vis de cette IA. C'est-à-dire, il faut pas qu'elle se gourre, faut qu'elle ait les bonnes références, faut qu'elle ait appris les bonnes références, j'imagine, non?
Et oui, mais comme le disait Sandrine tout à l'heure, il faut qu'on pose la bonne question, ce prompt, ce nouveau mot qu'on utilise. Et il est extrêmement important de savoir rédiger un prompt, de savoir expliciter sa demande, quelle que soit l'IA, pour que la réponse soit la bonne.
Et puis, peut-être en Sandrine. Complément, on peut dire aussi que il faut s'assurer que l'outil qu'on utilise est à jour. Par exemple, Vincent citait tout à l'heure l'exemple de la loi de finances. Voilà, il faut s'assurer que les sources qui sont utilisées par l'outil viennent bien puiser dans les dernières mises à jour. Donc ça, c'est très important.
Le disais, on l'a tous fait, et moi le premier, quand ChatGPT est arrivé, je lui ai posé quelques questions sur la gestion de patrimoine, et ne serait-ce que sur les taux des livrets. À cette époque-là, je me souviens qu'il m'avait donné des taux qui n'étaient pas les bons.
Absolument, donc il faut vérifier les sources, et maintenant, c'est des choses qu'on arrive à trouver plus facilement dans les outils qu'on interroge. On peut lui demander, par exemple, donne-moi une réponse, mais en me citant les sources. Donc, ça, en fait, la confiance n'exclut pas le contrôle, ouais, c'est une expression qu'on utilise depuis longtemps dans le management. C'est un peu pareil avec l'IA. Ça n'exclut pas d'aller vérifier ses sources.
Il ne faut pas manger tout cru.
De les croiser. Voilà. Ouais. Au contraire, même, c'est même une règle de ne pas manger tout cru et de vraiment s'assurer, avec son bon sens et son expertise personnelle de CGP, que les éléments qu'on récupère sont qualitatifs et sont fiables.
Tiens, puisons dans votre expérience, justement. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner, nous démontrer, par l'exemple, on va dire, un cas dans lequel l'IA vous a aidé, simplifié les choses, ou ça a amélioré votre gestion de patrimoine?
Oui, je peux donner un exemple très concret qui va peut-être faire rêver beaucoup de cabinets de conseil en gestion de patrimoine, puisqu'on a utilisé l'IA, et notamment ChatGPT, dans une version payante, pour pouvoir générer un code qui nous aide à aller chercher des données de clients qui sont dans un fichier Excel et à les faire basculer dans un PDF remplissable pour des campagnes d'arbitrage auprès de compagnies d'assurance. Donc au niveau de l'IA, on met pas les noms des clients, on met pas les données des clients, mais on lui met la structure du fichier et on lui demande de nous générer le code qui va permettre de le basculer en PDF. Et une fois qu'on a récupéré le code, on le déploie.
Clairement, il aurait fallu que quelqu'un s'y colle
Voilà, quelqu'un qui ait des compétences en code, ce que nous n'avons pas forcément au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple très pratique. On peut citer des choses beaucoup plus classiques, des préparations de compte-rendu de rendez-vous clients, par exemple, qui peuvent se faire très facilement aussi par le biais de l'intelligence artificielle.
Mais ça veut dire que ça va remplacer certaines tâches humaines ou ça va remplacer certains humains?
Alors, on peut dire que ça va remplacer sans doute les tâches les plus rébarbatives et répétitives. Et ça, je pense que personne ne s'en plaindra. Parce qu'à tous les niveaux de nos cabinets, on a une capacité à apporter de la valeur ajoutée sur le service, sur la réactivité, sur l'accompagnement des clients. On a une phrase qu'on a utilisée dans le guide et qu'on aime bien, parce qu'on dit souvent « l'IA va te piquer ton job », et c'est de dire « l'IA ne piquera pas le job », mais quelqu'un qui sait utiliser l'IA pourra, oui, te piquer ton job. Donc, c'est vraiment important pour nous tous, conseillers en gestion de patrimoine,
de
passer cette marche pour pouvoir utiliser selon notre quotidien.
On utilise aussi une expression qu'est le conseiller augmenté. Ça nous permet de gagner du temps dans la relation avec nos clients. Tout le temps qu'on pouvait faire à rédiger une présentation, à rédiger une synthèse, l'IA va le faire et donc on aura plus de temps à consacrer à nos clients. Donc, au contraire, je pense que c'est un outil pour soutenir notre croissance qui est tous... forte.
Sandrine a très rapidement évoqué le nom du client. Et donc là, on a mis le doigt dans la confidentialité. C'est vrai qu'on dit tout le temps, enfin, quand on parcourt le net et qu'on essaie de suivre un tuto pour appréhender cette IA, on nous dit toujours attention, mettez surtout pas de données de la boîte, mettez pas d'informations confidentielles, parce que sinon, bien évidemment, en posant la même question, votre concurrent, il va peut-être récupérer vos réponses. Comment on la gère, justement, cette question de la confidentialité, de la sécurité des données? Parce que c'est sensible, quand même. Vos clients, ils n'ont pas forcément envie que tout le monde puisse savoir, monsieur Intel, ce qu'il possède et quelle est sa stratégie patrimoniale.
Ah, c'est très intéressant comme question. Alors, on l'a évoqué dans le guide. Vous avez plusieurs sortes d'IA. Vous avez des IA généralistes. Il faut savoir qu'il me semble que ChatGPT, les données s'arrêtent à 2022. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de données nouvelles depuis cette date-là. Et puis, il y a des IA propriétaires. Et dans ces IA propriétaires, effectivement, là, on va pouvoir se retrouver face à cette problématique de données, de confidentialité de données. Problématique qu'on a d'ores et déjà. Dans tous les outils métiers, aujourd'hui, on est soumis à RGPD, on est soumis à expliquer à nos clients où sont nos données. Et donc, ben, c'est exactement la même chose avec l'IA. Donc, quand on va utiliser un nouvel outil ou un outil existant qui aura impliqué de l'IA, je pense au gel des avoirs ou la lutte anti-blanchiment, et qu'on mettra des éléments clients, on sera dans le cadre des RGPD. Mais il y a un deuxième cadre qui est bien plus important, qui est bien plus puissant, qui est en train d'être implémenté, qu'on appelle l'IA Act. L'IA Act définit les typologies d'IA, définit les rôles d'IA, les déployeurs, les attributeurs, hein, des mots un petit peu compliqués qui sont là, et à chaque fois, il va définir les obligations.
Finalement, on construit ce monde aussi.
On reconstruit ce monde. Vous savez qu'il y a des domaines où l'IA est interdit. La santé, l'IA va être interdit. Tout ce qui est infrastructure stratégique, l'IA sera interdit ou sera complètement réservé aux militaires. Et à chaque fois, nous aurons nos responsabilités. C'est-à-dire que quand on utilisera un outil, il faudra bien s'assurer que notre prestataire respecte les critères de sécurité, puisque quand on va injecter les données de nos clients, eh ben on en sera responsable.
Comment est-ce qu'il aide ce guide à différencier notamment les solutions d'IA open source, on va dire, des solutions propriétaires? Et pourquoi c'est important de savoir faire le tri? C'est justement pour qu'on connaisse bien le rôle que chacun occupe.
C'est l'idée de notre guide, en fait. Un guide, c'est de donner quelques idées, quelques astuces pour gérer un petit peu tous ces noms qui foisonnent. Il y a les IA généralistes qui ne font que de donner une réponse à une question. Il y a les IA génératives qui vont générer un rendu qu'on va pouvoir utiliser dans notre métier ou dans notre vie personnelle. Mmh. Et puis, il y a les IA propriétaires qui, là, seront... aujourd'hui, vous pouvez souscrire à ChatGPT et entraîner ChatGPT sur vos données et pour vous donner des réponses par rapport à votre environnement. Et à chaque fois, on a donné quelques noms d'exemples et quelques noms de quelques thèmes d'utilisation avec tel ou tel IA.
Après, c'est vrai que beaucoup d'outils sont gratuits. C'est un peu le principe de l'IA. C'est un exercice, effectivement. C'est exercer la machine. Et donc, c'est le principe de l'open source. Chacun contribue par ce qu'il indique, les réponses qu'il donne aussi, aux réponses qui sont proposées par l'IA. Donc, il faut savoir souvent que quand c'est gratuit, en fait, on travaille aussi pour le monde, en fait. On travaille pour améliorer l'outil.
Quand donc, c'est gratuit, c'est qu'on est au menu. Hein.
Bah, oui, d'une certaine façon. Et donc, évidemment, on a moins de confidentialité, on le comprend bien. Et donc, il faut toujours se poser la question, au moment où on va utiliser un outil, quel qu'il soit en IA, de se dire, est-ce que cet outil, je le paye, est-ce qu'il est gratuit, est-ce que ça reste chez moi ou est-ce que ça part chez les concurrents, mais c'est même pas forcément les concurrents le sujet. C'est est-ce que je le mets sur la place, du marché, quoi, sur la place publique.
Quel conseil on peut justement donner à un CGP qui peut-être aujourd'hui, à part avoir demandé quelques trucs par-ci par-là à ChatGPT, n'aurait pas encore vraiment franchi le pas et qui se dirait bah tiens, aujourd'hui je veux commencer à utiliser l'IA dans mon boulot?
Alors, on en donne quelques-uns dans le guide, hein, puisqu'on a fait à la fin du guide quelques interviews de professionnels pour leur demander aussi un peu leurs trucs. Je pense qu'il y a des sujets de formation. Donc, commencer par se former, ouais. C'est quelque chose qui semble assez évident. Il y a une offre assez pléthorique aujourd'hui d'intervenants. Ça, c'est une première base. Sans doute aussi, malgré tout, quand on a une équipe, mettre en place une charte d'utilisation de l'IA, parce qu'il faut faire attention à comment les collaborateurs utilisent. Moi, je trouve que, en fait, démarrer par son cas personnel et par des sujets personnels, c'est la façon la moins intimidante de démarrer l'IA. Alors, tout à l'heure, Vincent parlait des vacances à Ibiza. Ça ne regarde que lui, mais... je trouve que finalement, utiliser l'IA, On peut les utiliser pour tout, pour avoir des idées, pour faire des cadeaux à son fils adolescent, pour écrire une lettre de remerciement. Il y a plein de sujets. Et donc, en fait, plus on va l'utiliser dans notre quotidien, même personnel, plus ce sera facile de l'utiliser d'un point de vue professionnel. Après, il y a des petites choses aussi qui existent et qui sont intéressantes, des dispositifs. Nous, on a fait appel, par exemple, à un dispositif qui s'appelle IA Booster, qui est un dispositif mis en place par la BPI et qui permet, avec des experts qui sont assermentés, entre guillemets, de faire une sorte d'audit interne de la structure et de déterminer quelles seraient les premières applications simples pour pouvoir implémenter de l'IA chez soi. Le risque, c'est de vouloir faire trop gros tout de suite et puis d'y perdre un peu son temps,
son
énergie.
Ouais.
Voilà. Et là, d'aller trouver des applications simples pour pouvoir démarrer facilement.
Justement, pour conclure, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Ça va se multiplier, ça va se démultiplier, l'IA sera exponentielle, y compris pour ce monde de la gestion de patrimoine ?
J'ai envie de dire, l'IA, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Donc, il faut y aller à fond. Effectivement, il faut commencer par la formation, il faut commencer petit pour appréhender. Il faut y aller, parce que c'est effectivement un élément qui va changer notre vie, qui va continuer à soutenir notre développement. Et ça, c'est important à faire, dégager du temps pour notre valeur ajoutée, qui est toujours la relation avec les hommes. Elle va venir et les femmes, elle va venir compléter notre dispositif. C'est hyper important de ne pas aller contre, parce que sinon, comme je reprends la petite phrase, peut-être qu'il y a des gens qui iront avec et qui nous remplaceront.
Alors, guide à quatre mains, enfin, ou un peu plus, mais ce matin, il était présenté à quatre mains. En conclusion, quel message clé on passe à vos petits camarades, mais pas que, hein, les autres qui ne seraient pas forcément à SNGP, ils peuvent le lire aussi. Hein.
Ah, je ne sais pas s'ils peuvent le lire. Le message qu'on passe, c'est que c'est pour tout le monde, en fait. Ouais. Il peut y avoir un espèce de frein personnel de certaines personnes qui se disent « je ne suis pas très technologie », etc. C'est simple d'utilisation, c'est facile. Donc le message, c'est lancez-vous, utilisez-le, et vous verrez qu'il vous aidera beaucoup dans votre quotidien.
Alors le titre, c'est un prompt, c'est normal. Proposer un guide sur l'IA, clair, concis et ludique aux professionnels de la gestion de patrimoine généré. Voilà, c'était signé donc Sandrine Genet et Vincent Courroyer pour la CNCGP. Merci à tous les deux d'avoir été présents et d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
À bientôt, merci.
Et tout de suite, on continue à parler de ce monde de la gestion de patrimoine. On va faire rimer retraite avec international. À tout de suite.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et après cette longue phase consacrée à l'intelligence artificielle, comme promis, c'est la retraite qui va occuper notre temps ce matin. On accueille Sonia Henlinger. Bonjour Sonia.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour Lily Kerr et Charles-Henri Chenu. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes avocat à Paris au cabinet Chenu, Oliveira et Santiago, spécialisé dans ces questions internationales, puisqu'on va faire rimer retraite avec international. D'abord, remettons un peu les choses en place. Je le disais en introduction tout à l'heure, on va pas présenter la énième nouvelle ou future réforme, mais il va nous falloir quand même un petit rappel de barème, Sonia, pour savoir où on en est en termes de retraite après cette réforme 2023.
Alors, un chiffre à retenir, 172 trimestres, 43 ans de cotisation, c'est depuis la réforme des retraites ce qu'il faudra cotiser pour pouvoir prétendre à une retraite à partir de 64 ans maintenant. Taux plein, 67 ans, ça ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est 25 années qu'il faudra cotiser. On va prendre les 25 meilleures années. On va prendre 50% de ces 25 meilleures années pour avoir sa retraite de base, qu'on appelle sécurité sociale.
D'accord.
Après, on a toujours le système des surcotes. Si on travaille plus que la durée requise, il y a 1,25% de surcote par trimestre. Pareil, en déduction, si on
ne travaille pas assez,
voilà, suffisamment. Donc ça ne change pas. Et puis également, les retraites complémentaires, hein, en plus de la retraite de la sécurité sociale. Donc là, c'est une retraite par points qui vous permet de vous cotiser. Vous avez un nombre de points acquis et chaque année, le point est revalorisé. Vous le transformez en euros et vous saurez exactement combien vous allez percevoir de retraite.
Ça, c'est notre système. Voilà. Et à l'international, Charles-Henri Chenu, comment est-ce qu'on peut parler de retraite ?
Alors déjà, ça touche une vraie communauté puisque la diaspora française est à peu près comprise entre 3 millions et 3 millions et demi de compatriotes hors hexagone. Ils sont aussi perdus qu'ici, tout à fait légitimement. Et parce qu'ils sont à l'étranger, ils se posent la question de la retraite en France, de la retraite dans leur pays de résidence, mais aussi dans un autre pays dans lequel ils ont pu travailler. Donc, le premier réflexe est de savoir quelle est la législation applicable dans son pays de résidence, qui n'est plus, a priori, la France. L'âge de la retraite est très différent. Par exemple, en Europe, ça peut être 65 ans en Espagne, c'est 66 ans au Portugal, 67 ans en Italie. Donc, déjà, s'enquérir de l'année de départ, ça, c'est très important. Et puis, vous avez des législations très spécifiques qui vous imposent aussi une durée minimum de travail dans le pays en question. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France. La France, il n'y a pas un minimum de prérequis. On n'a pas besoin de travailler un minimum en France pour prétendre à la retraite. Dans certains pays, c'est le cas. L'Allemagne, c'est par exemple 5 ans minimum. Sinon, vous n'avez pas le droit à la retraite. Le Royaume-Uni, c'est 10 ans. Et moi qui travaille beaucoup avec l'Amérique latine et le Brésil notamment, c'est 15 années de travail à minima sur place. Donc, le premier réflexe, c'est de s'enquérir de la législation applicable dans votre pays de résidence.
Bon, alors effectivement, il faut se renseigner. Bon, on a donc une vision un peu générale de tout ça. Mais quand on bouge, Sonia, si on part vivre, travailler à l'étranger, on va dépendre de plein de statuts, non ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux statuts principaux. Donc, le statut de travailleur détaché. Donc là, un travailleur détaché, c'est l'entreprise qui envoie son salarié à l'étranger. Il n'y a aucune différence par rapport au système de retraite française.
D'accord, c'est-à-dire donc que là, c'est on comme reste si... dans le cadre que vous avez rappelé.
Voilà, comme s'il n'avait jamais quitté le territoire français.
D'accord.
Principalement, c'est quand même plutôt en expatriation qu'on envoie les travailleurs à l'étranger. Et là, ça va être souvent du contrat local. Donc, le contrat d'expatrié, là, on va regarder les conventions qu'il va y avoir avec la France et le pays dans lequel on va être expatrié pour savoir à quelle sauce on va être mangé au niveau de la retraite.
Donc, c'est un peu comme pour la fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a des conventions. Quand on décide, Charles-Henri, d'aller à tel ou tel endroit, entre guillemets, on ouvre le bouquin et on regarde s'il y a une convention, ce qu'elle raconte, quelles sont les différences, on a le choix, enfin comment on fait
Exactement, donc ça on y pense assez peu. La France a signé des conventions bilatérales avec d'autres pays, une trentaine de pays partenaires, des conventions bilatérales de sécurité sociale, parce qu'on parle souvent de la convention fiscale bilatérale ou des conventions fiscales, mais il y a aussi des conventions de sécurité sociale qui nous intéressent au premier chef ici. Donc une trentaine de pays, ça embrasse à peu près l'ensemble des régions du monde, le Maroc, le Canada, le Brésil, on en parlait. Donc, se renseigner sur ces conventions. Alors, ça sert à quoi, en fait, une convention ? C'est extrêmement utile parce que lorsque la France a signé une convention avec un autre pays, vous pouvez, pour prétendre à votre retraite française et ces fameux trimestres dont parlait Sonia, vous prenez les années travaillées en France et vous allez agréger aussi les années travaillées à l'étranger. Et cela, on n'y pense pas du tout. Donc, ça vous permet finalement, avec ces années françaises, de rajouter quelques années marocaines ou canadiennes et d'arriver aux fameux 172 trimestres. Donc, c'est extrêmement profitable. Mais c'est profitable aussi dans l'autre pays qui a signé cette convention. C'est-à-dire que dans l'autre pays, vous allez avoir les années travaillées, par exemple, au Canada. Vous n'en avez pas assez pour avoir un taux plein canadien. Et donc, vous allez additionner les années françaises aux années canadiennes.
Et
donc, c'est extrêmement utile.
On fait son marché, quoi. C'est-à-dire que...
On fait une reconstitution de carrière internationale et on récupère l'ensemble de ces années un peu partout, glanées un peu partout, pour prétendre dans chaque pays à un taux plein de retraite.
Bon, mais s'il n'y a pas de convention
Alors, s'il n'y a pas de convention, c'est un vrai sujet. Vous avez cotisé, vous n'avez pas cotisé dans le pays en question, donc ça ne joue pas pour la France. Et vous pouvez vous rattraper quand même. C'est pour ça qu'il faut être assez fin dans ces cotisations lorsque vous êtes à l'étranger. Vous pouvez vous rattraper lorsque vous cotisez à la Caisse des Français de l'étranger dans l'autre pays. Caisse des Français de l'étranger, non pas santé, mais sécurité sociale.
D'accord.
Et à ce moment-là, ces années où dans ce pays, il n'y a pas de convention bilatérale, donc si vous êtes salarié dans ce pays, vous ne pourrez pas les additionner en France, vous cotisez à la CFE, à cette Caisse des Français de l'étranger, dans ce pays, et ces années de cotisation CFE à l'étranger viendront s'agréger en France.
Alors pour vous donner un exemple au niveau coût de la Caisse des Français de l'étranger, c'est à peu près 2000 euros par trimestre de cotisation pour pouvoir récupérer ces trimestres. Alors, on a un exemple assez concret, parce qu'on travaille pas mal ensemble sur ces sujets, sur des personnes qui cotiseraient à la CFE ou pas. C'est pas toujours si intéressant que ça. On a eu un cas, là, récemment, une personne qui continue à cotiser à la CFE en se disant bah, « si, ça sert à quelque chose », alors qu'il y avait des conventions entre les deux pays. Donc, finalement, il cotisait à perte, ou pratiquement à perte, parce que ça lui donnait rien du tout. Donc, ça se
mais calcule ça veut dire que, vraiment. Ça veut dire qu'en fait, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'au moment où on décide de partir, il ne faut pas forcément non plus faire confiance, entre guillemets, 100% à sa boîte et autres. Il faut se renseigner, il faut aller de l'avant.
C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est que votre boîte, quand vous êtes un vrai expatrié et qu'elle vous paye votre expatriation, c'est ceinture et bretelles. Elle va dire, moi, je vous cotise dans l'autre pays, la CFE, sauf que vous êtes salarié, par exemple, au Brésil, vous êtes salarié brésilien, vous allez prendre ces années de cotisation de salariat brésilienne, et ça sert à rien de cotiser en plus à la CFE. Ça fait doublon, et ça s'additionne pas. Donc, en fait, vous cotisez à perte. Nous, on a sur le dossier que tu évoquais, permis sur 5-6 ans, à supprimer des cotisations à perte à hauteur de 100 000 euros.
Ah oui.
Donc, c'est un gain non négligeable.
Pas tout à fait négligeable, oui. Bon, question qui fâche, mais en France, il y a toujours cette question-là quand on parle de gestion de patrimoine, la fiscalité. Comment est-ce qu'on fiscalise des trimestres touchés, cotisés, déduits, agrégés ou pas à l'étranger ?
Alors, il y a déjà la matraque française vous impose vos retraites. Maintenant, si vous êtes un Français de l'étranger et que vous habitez hors hexagone, vous allez donc déclarer ce revenu français de retraite, vous allez le déclarer lors de votre déclaration de revenus à l'étranger. Et la fiscalité étrangère va vous imposer. Donc vous allez, a priori, avoir une double imposition. Une retenue à la source française sur votre retraite et puis une taxation locale.
Quand donc là, on change de convention, on lâche la convention sociale et on revient sur la convention
exactement.
Fiscale.
Exactement. Et donc, alors, normalement, il y a d'abord une convention fiscale et après, éventuellement, une convention sociale. Il y a rarement une convention sociale toute seule et pas une convention fiscale. D'accord. Donc là, on joue le jeu de la convention fiscale, du crédit d'impôt, de la non-double imposition. Et donc, vous n'allez pas être imposé deux fois sur le même revenu de retraite. C'est souvent le cas quand même. Donc, l'astuce, c'est d'aller voir l'organisme payeur français en lui disant, écoutez, non, moi, je suis sous couvert d'une convention fiscale bilatérale, je vous demande de ne plus payer parce que je paierai l'impôt sur ma retraite française dans mon pays de résidence.
J'ai déjà payé au Maroc, au Canada, au Portugal.
Ça fonctionne.
Et ça fonctionne. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'on se dit en conclusion que, encore une fois, c'est la préparation, c'est la recherche
Avant de partir, surtout vérifier si ce pays a déjà une convention ou pas. Donc, s'il n'y en a pas, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Ensuite, bien conserver toujours ces documents quand on va travailler à l'étranger. Et puis, l'expérience internationale, c'est exaltant, mais il ne faut pas non plus partir la fleur au fusil et sans aucune organisation. Donc, bien se renseigner et consulter des spécialistes, bien sûr, pour vous aider.
Merci à tous les deux, Sonia Emlinger donc pour Lily Kerr et Charles-Henri Chenu donc pour le cabinet Chenu Oliveira Santiago. À très bientôt.
Merci.
Merci de votre visite dans Cœur de Patrimoine. Tout de suite, on va changer d'univers. On prend la direction des marchés financiers.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on termine donc Cœur de Patrimoine pour cette semaine en parlant des marchés. J'ai le plaisir d'accueillir Hortense Lacroix. Bonjour Hortense.
Bonjour Cédric.
Pour Montpensier Arbevel. Période un peu particulière, parce que évidemment tout le monde regarde Trump et autres. Tout le monde regarde aussi les questions géopolitiques, les questions politiques. Enfin, comment est-ce qu'on évalue cette situation actuelle sur nos marchés financiers? Alors on va beaucoup s'intéresser à l'Europe bien sûr, mais...
C'est une situation très compliquée qui se traduit par beaucoup de volatilité sur les marchés. Pour l'évaluer, il faut avoir le cœur bien accroché et essayer d'avoir une vision, je pense, un petit peu long terme pour se sortir de l'actualité, parce qu'on a vraiment des séances à plus 2 suivies de séances à moins 2. Je pense qu'il faut vraiment essayer de s'extraire de tout ça et de voir un petit peu est-ce qu'il y a oui ou non des ruptures assez franches dans cet univers d'incertitude assez nourri.
Justement, les principaux moteurs, que ce soit de croissance ou alors les défis qui sont plus à surveiller, vous en avez deux, trois par-ci, deux, trois par-là qui sont vraiment sur le dessus de votre bureau chaque matin que...
Bien sûr. Alors, depuis le début de l'année 2025, on a commencé avec les tarifs, puisque la deuxième mandature de Trump est arrivée avec l'idée de généraliser des droits de douane avec tous ses partenaires commerciaux, puisque c'était pour lui sa façon de financer un certain nombre de dépenses. Donc, la priorité, c'était de surveiller un petit peu qui seraient les victimes, qui pourraient bien s'en sortir. Donc, parmi les sociétés qui produisaient aux États-Unis quand ils vendaient aux États-Unis, qui finalement n'étaient pas riches parce que n'étaient pas aux États-Unis. Donc on a commencé un petit peu avec ce jeu de qui gagnera, qui perdra dans la guerre commerciale. Et puis ensuite, on est arrivé avec la diplomatie Trump, qui était quand même assez inattendue, hein, puisqu'elle est d'un radical assez perturbant. Donc une optionnalité sur la fin de la guerre en Ukraine, une optionnalité sur le Moyen-Orient, on ne sait pas ce qui va se passer avec la Chine, donc énormément d'incertitudes, tout ça assez difficile à anticiper. Et puis quand même, le point assez positif qui se dégage de tout ça, on en parlera je pense, c'est l'Europe qui du coup a une chance incroyable pour prendre en main enfin son destin politique.
Justement, juste pour s'attarder un tout petit peu sur la question de Trump qui effectivement focalise pas mal d'attention, est-ce qu'on arrive à se projeter, enfin pas à se projeter parce qu'il est parfois ou même souvent imprévisible, mais est-ce qu'on se dit les répercussions vont forcément être à long terme parce qu'il renverse la table, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu du jour le jour, parce qu'on voit aussi que parfois il change d'avis, il suspend des taxes qu'il avait mises l'avant-veille, enfin bon bref. Comment est-ce qu'on arrive à appréhender ça un peu? On se dit bon bah, parce que la gestion, c'est du long terme aussi, c'est pas du day trading.
C'est une excellente question, parce que le premier mandat Trump, tel qu'on l'avait connu la première fois, est quand même très très différent de ce deuxième mandat Trump. Il arrive beaucoup plus préparé, beaucoup plus radical, sur une rhétorique America First qui est quand même bien plus avancée, bien plus aboutie que celle du premier mandat. La bourse a du mal à savoir sur quel pied danser, d'où la volatilité dont on parlait. C'est vrai qu'on impose des tarifs, puis on n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein, sur des montants considérables. Et puis finalement, on va donner un petit peu de temps, et puis finalement, on va revenir en arrière sur les tarifs. Donc on a l'impression plutôt d'un jeu de caprice initialement que d'une stratégie très bien pensée sur le long terme.
Mais pour autant, il faut adapter sa stratégie d'investissement.
Absolument. Et puis pour autant, il prévient les marchés que oui, il y aura peut-être quelques petites turbulences, mais c'est pour aller vers du mieux. Donc il a quand même une stratégie à plusieurs coups apparemment. Sur les marchés, ce qui est assez au-delà des tarifs, on a quand même un effet inflationniste qui a complètement perturbé les prévisions des économistes sur la zone, en fait, sur l'ensemble du monde, puisque les tarifs auront un effet inflationniste et que les taux longs, la BCE a beau faire tout ce qu'elle peut en baissant les taux courts, les taux longs ne veulent pas baisser parce qu'effectivement, on craint pour l'inflation. Et côté US, ça a des effets évidemment beaucoup plus inquiétants puisque le consommateur commence quand même à se poser des questions sur de quoi sera fait son lendemain.
C'est sûr qu'il y en a qui l'ont entendu critiquer Biden parce qu'il avait fait de l'inflation. On va voir comment il digère l'inflation signée Trump. Quels sont selon vous un peu les secteurs justement qui en ce moment sont les plus résilients ou ceux qui ont le plus de potentiel de croissance en Europe? Vous nous disiez tout à l'heure que finalement on pouvait peut-être aussi tirer notre épingle du jeu dans cette nouvelle donne mondiale.
Complètement. Alors, si on s'en tient juste à ce qui s'est passé déjà depuis quelques trimestres, bon, il y a évidemment la défense hein, qui s'en est bien sortie, puisque la grande rhétorique de Trump, c'est que tout le monde doit réarmer. Si tout le monde doit réarmer, il faut bien acheter les armements quelque part. Donc, un secteur qui était déjà assez tiré par le conflit ukrainien se voit encore faire l'objet de prévisions et de visibilité sur des années, puisque ce 3% de PIB à dépenser en défense correspond à des budgets considérables en termes d'armement et autres. Donc, le secteur de la défense est une exception, quelle que soit la conjoncture. On a le secteur des banques qui s'en sort très, très bien. Alors, en partie parce qu'effectivement, les taux longs ne baissent pas. Donc, tous ceux qui avaient imaginé que les banques avaient eu leur moment et puis que ça allait retomber, eh ben, ouais, en sont pour leur grade, puisque finalement, les banques ont une profitabilité qui est exceptionnelle et qui a l'air d'être durable. Et puis alors, on parle de complètement autre chose quand on parle de le moment allemand qui est peut-être en train de se dessiner, ouais, depuis les élections allemandes.
Mais c'est-à-dire que la donne change complètement de l'autre côté du Rhin.
Mais complètement, c'est exceptionnel.
On avait l'impression que c'était Picsou qui voulait pas lâcher.
On a vraiment la conviction chez Montpensier Herbevel qu'on est sur quelque chose qui va être un game changer pour plusieurs années devant nous. Si on reprend un petit peu la perspective historique, l'Allemagne, avant la grande crise financière, avait une croissance bénéficiaire qui était largement celle des États-Unis. En fait, on avait un pays qui était prospère, qui avait une belle croissance économique. Post-crise, post-grande crise financière 2009-2010, cette règle d'or se met en place d'un désendettement qui en fait recycle tous les excédents commerciaux allemands, qui sont considérables, hein, 5-6% du PIB, recyclés en remboursement de dettes. Donc, pendant que les États-Unis, la France, l'Italie avaient des dettes publiques qui dépassaient les 100% du PIB et qui massivement en fait avaient un effet de relance budgétaire, on avait cette Allemagne qui s'imposait une
oui,
diète
la fourmi, quoi.
Extrêmement durable, et ça a divisé par deux la croissance bénéficiaire. Donc on avait beau répéter en termes de marché, oh bah, le marché européen n'est pas cher, le marché action européen n'est pas cher, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a aucun ouais. intérêt pour les investisseurs internationaux. Or là, qu'est-ce qu'on nous annonce ? C'est majeur, on nous annonce quasiment une relance. Si on prend simplement les plans d'infrastructure et les plans de défense qui ont été annoncés, c'est 1% quasiment du PIB allemand pendant 10 ans qui va être dépensé. Donc on a un effet de relance budgétaire
ouais, et
considérable.
Et c'est de nature à soutenir vraiment un redémarrage économique européen ?
Complètement. Alors l'Allemagne, c'est un peu moins d'un tiers, c'est un peu moins de 30% du PIB européen. Donc vous faites un effet de relance d'1% du PIB par an pendant 10 ans, vous avez quand même un élan considérable qui devrait se diffuser à l'ensemble de l'économie américaine. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Pour ne pas aborder l'aspect politique aussi, qui est que si effectivement Trump a dit clairement qu'il ne voulait plus assumer la sécurité de l'Europe et que les Européens prenaient en main leur destin politique en termes de défense, on a peut-être enfin une Europe qui va créer une entité économique.
Si cette dynamique existe et se met en place, on aime bien avoir des repères, des clignotants à regarder, etc. Quels sont un peu les indicateurs qu'il faut s'habituer à avoir en tête pour constater, mesurer, valider cette dynamique ?
Mais rien de très compliqué. Hein. La croissance, la relance budgétaire doit créer une croissance de la zone. Donc en fait, simplement croissance de PIB, des indicateurs avancés. On avait une dichotomie qui était assez intéressante en Allemagne. On avait d'un côté des indicateurs avancés qui étaient en dépression complète. Et finalement, bon, certes, l'Allemagne était en dépression technique depuis quelques temps, mais c'était du zéro moins. Finalement, il n'y a jamais eu de vrai plongeon. Donc, on avait l'impression qu'il y avait plus un consommateur qui était complètement déprimé qu'une économie qui, réellement, dans ses fondamentaux, allait si mal que ça. Par rapport évidemment à tous les chocs qu'elle a dû emmagasiner, hein, puisque ses débouchés chinois se sont fermés, les taux ont augmenté, l'Ukraine a considérablement augmenté, la guerre en Ukraine considérablement augmenté le prix de l'énergie. Donc par rapport à tous ces chocs qu'elle a emmagasinés, finalement ça n'allait pas si mal. Donc moi j'ai envie de dire, regardons les indicateurs avancés, les croissances macroéconomiques, et puis ça va forcément se répercuter sur les croissances bénéficiaires des entreprises.
Du coup, comment on traduit tout ça en tant que gérante? Finalement, c'est vraiment votre spécialité, cette zone Europe. Quels conseils vous avez envie de donner aujourd'hui aux épargnants, aux investisseurs? Bien sûr, avec une connotation patrimoniale, on n'est pas, je le répète, dans le day trading, mais voilà, pour naviguer de façon opportune dans cet environnement nouveau.
Moi, je pense que c'est pas du tout fini, en fait. Ce qui fait très peur, c'est la volatilité. On a quelques journées où ça monte très, très fort sur l'Europe, très, très fort sur l'Allemagne. Et finalement, je comprends que pour un particulier, on se dise, oh là, est-ce que c'est pas déjà terminé? Est-ce que c'est pas déjà pricé?
Ouais, est-ce que j'ai pas raté le train, quoi?
Voilà, l'Europe était en retard, mais ça allait tellement vite que finalement, elle a déjà fait plus 10 year to date, elle a considérablement rattrapé par rapport aux États-Unis. Donc moi, je pense que si on se resitue dans une perspective historique et qu'on se dit, ça fait 15 ans que l'Europe sous-performe, ça fait plus de 3 ans que les indicateurs avancés européens sont en dessous de 50, donc en zone de contraction, et que enfin, on met une incitation, alors qui doit être confirmée politiquement le 13 mars et le 18 mars, mais si vraiment ce catalyseur politique est mis en place, je pense qu'on est dans quelque chose de très long et qu'il ne faut pas avoir peur de se réexposer sur la zone Europe parce qu'on n'a rien vu encore.
Et du coup, comment est-ce que votre maison, comment est-ce que Montpensier Arbevel se positionne pour tirer profit, on va dire, partie de ces tendances qui émergent en Europe?
Alors, on a déjà une gamme qui est assez européenne. Une partie des fonds qui sont internationaux, une partie des fonds qui sont plus européens. Sur les fonds européens, ce qui est frappant, c'est que les indices ont monté depuis le début de l'année avec quelques petits secteurs, ceux dont on discutait. Ça a monté sur la défense, ça a monté sur le luxe, ça a monté sur les banques. Mais le fond de la cote n'est absolument pas monté. Alors, si vraiment on est confiant sur un mouvement de fonds et des flux qui reviennent, les plus petites capitalisations boursières sont celles qui sont les mieux à même d'aller capter ça. Et alors là, on est en sous-performance très, très forte depuis 2018. Un énorme retard à compenser.
Merci beaucoup, Hortense.
Merci, Cédric.
Hortense Lacroix, donc gérante Action Europe chez Montpensier Arbevel. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Merci de votre confiance et de votre fidélité.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.